18h30 à Dakar, 19h30 ici à Paris. Merci à vous d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce mardi. Elle vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, une délégation du Fonds monétaire international en déplacement au Sénégal confirme les conclusions de la Cour des comptes sur l'ampleur de la dette cachée du temps de l'ancien président Macky Sall. Des experts des Nations Unies appellent à la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques maliens enlevés il y a près de 2 ans, puis détenus et torturés par la sécurité d'État. Les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est élargissent leur équipe de facilitation pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette initiative intervient au lendemain de la fin de la médiation angolaise annoncée hier par Luanda. Et pour clore cette édition, nous écouterons l'interview du président de la transition gabonaise, Brice Clotaire-Oligui Nguema, interrogé par Christophe Boisbouvier de RFI et Marc Perelman de France 24. Il reviendra sur l'élection présidentielle qui se tiendra le 12 avril prochain et pour laquelle il est candidat. Il répondra à la question sur les raisons de l'exclusion de certains poids lourds de la vie politique du scrutin présidentiel et sur les risques de le voir perpétuer le système Bongo sans Bongo. Entretien à suivre dans une quinzaine de minutes. Il y a un mois, la Cour des comptes du Sénégal révélait une dette publique bien supérieure à ce qui avait été déclaré par le gouvernement précédent. Un constat que confirme donc aujourd'hui le Fonds monétaire international. Une dette d'un montant d'environ 7 milliards de dollars cachée par l'administration de l'ancien président Macky Sall. À Dakar, les précisions de Léa-Lisa Westerhoff.
Il y a eu une décision très consciente, dit le chef de la mission du FMI au Sénégal, Edouard Gemayel, de sous-estimer la dette du Sénégal pendant les 5 dernières années. Le FMI confirme donc la dissimulation délibérée de l'administration précédente et le montant de la dette cachée, 7 milliards de dollars environ. Un chiffre qui correspond à ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes, mais différemment. Quoi qu'il en soit, ces 7 milliards de dollars de dettes supplémentaires grèvent aujourd'hui les capacités financières du pays et ont provoqué la suspension immédiate du prêt du Fonds monétaire international au Sénégal. Tout l'enjeu désormais pour les nouvelles autorités, c'est de savoir si ce prêt pourra reprendre. Oui, peut-être, dit le FMI, mais d'abord il faut que Dakar identifie quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette si longtemps et prenne des mesures correctives pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Ensuite, l'institution financière devra décider si elle accorde une dérogation au Sénégal ou si elle demande le remboursement de ce qui a déjà été prêté par le FMI. Cet arbitrage aura lieu à Washington, au siège, début mai au plus tôt. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande, je cite, la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques maliens afin qu'ils reçoivent des soins médicaux spécialisés. Il s'agit de 3 membres du Mouvement pour la paix au Mali, le MPP. PPM et du SADI, parti d'opposition. Ils ont été enlevés en mai et juin 2023, il y a donc presque 2 ans, puis détenus et torturés par la sécurité d'État pendant plusieurs mois. Leur dossier a fini par être transmis à la justice. Mais David Baché, les experts indépendants mandatés par les Nations Unies se disent préoccupés.
Haïdara, Mangane et Togola ont droit à des soins médicaux urgents et le Mali a l'obligation, en vertu du droit international, de faciliter l'exercice de ce droit, estime l'équipe dirigée par l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, qui rappelle les actes de torture subis dans les geôles secrètes de la sécurité d'État, flagellation, scarification physique, électrocution des testicules, qui ont causé de graves souffrances physiques et mentales. En octobre, la Cour africaine des droits de l'homme demandait au Mali de libérer les 3 hommes pour qu'ils bénéficient de soins spécialisés. 2 jours plus tard, le juge d'instruction malien en charge de l'affaire ordonnait lui-même leur libération, cette fois pour un vice de procédure. C'était il y a 6 mois. Les 3 militants politiques sont toujours en prison. Les experts onusiens demandent donc aux autorités maliennes de se conformer à l'ordonnance de la Cour africaine. Ils demandent également l'examen rapide de leur dossier, qui semble, écrivent-ils, avoir été déposé contre eux en représailles à l'exercice de leur liberté d'expression. Poursuivis notamment pour complot contre la sûreté de l'État, les 3 membres du Mouvement pour la paix au Mali avaient dénoncé, lors d'une conférence de presse, plusieurs cas d'exactions attribués à l'armée malienne contre des civils.
David Baché. Puis au Burkina Faso, la junte au pouvoir annonce ce mardi la dissolution de l'Association des journalistes du Burkina. La décision intervient au lendemain de l'arrestation de 2 de ses leaders qui avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression. Il est reproché à l'AJB de ne pas s'être conformé à une loi de 2015 régissant les associations. Et puis ce mardi à Paris, ils étaient 700 personnes à avoir répondu à l'appel du comité Laïcité République pour une manifestation en soutien à Boualem Sansal. Demain, la justice algérienne doit rendre sa décision sur le sort de l'écrivain contre qui le procureur a requis 10 ans de prison. Bonsoir Willy Diallo.
Bonsoir.
Les soutiens de l'écrivain rassemblés à Paris ce mardi dénoncent une procédure injuste.
Oui, parce que dans la foule, de nombreuses personnalités politiques, militants et écrivains, pancarte à la main, appellent à la libération de Boualem Sansal. Constance Le Grip est députée française. Elle a déposé une proposition de résolution européenne pour sa libération. Devant la foule, elle s'est dit indignée de ses libertés bafouées et a ajouté que la liberté d'opinion ne saurait avoir aucune exception. Boualem Sansal a 80 ans. La semaine dernière, le parquet a requis 10 ans d'emprisonnement contre lui. Une demande qui ne passe pas en France. On emprisonne un innocent, dénonce Michel Blanquier, ancien ministre de l'Éducation nationale. 10 ans de prison, c'est sa tête qui est demandée, renchérit Gabriel Attal, ancien Premier ministre. Boualem Sansal est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie à cause de déclarations qu'il a tenues en octobre aux médias français Frontières, réputés d'extrême droite. L'auteur avait affirmé que lorsque la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Des propos qui lui ont valu d'être arrêté fin octobre et de faire face à la justice aujourd'hui.
Merci, Willy Diallo.
RFI à Matadi 98 FM.
Et c'est une nouvelle étape qui s'annonce pour la résolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Réunis hier en sommet virtuel, les chefs d'État de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'élargir le cadre de la médiation. Ils annoncent que 3 nouvelles personnalités rejoignent les anciens présidents Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta pour former un panel de 5 facilitateurs. Objectif, Patient Ligodi, relancer un processus de paix encore fragile dans l'Est de la RDC.
D'abord une question de confiance. Les noms de Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien, figurait sur la première liste, mais il a été écarté. La délégation congolaise avait exprimé des réserves, jugeant l'ancien dirigeant un peu trop proche de Kigali. Il est remplacé par Saleh Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie. Deuxième ajustement, l'équilibre régional. L'Afrique australe est désormais incarnée dans le panel par Kgalema Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique centrale entre également dans le jeu avec Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Avec ces nominations, plusieurs critiques adressées au précédent format sont aussi levées. D'abord, la représentation féminine totalement absente dans la première configuration. Il y a désormais 2 femmes sur 5. Ensuite, la diversité linguistique. Avec Catherine Samba-Panza et Saleh Work Zewde, la voix francophone fait son entrée dans un dispositif jusqu'ici largement dominé par l'anglais. Et maintenant, quelle est la suite du processus? Les 2 présidents en exercice de la SADC et de l'EAC, Emmerson Mnangagwa pour la SADC et William Ruto pour l'EAC, vont convoquer une réunion d'information avec les 5 facilitateurs dans les 7 prochains jours pour lancer officiellement cette nouvelle séquence diplomatique.
Les explications de Patient Ligodi, et c'est dans ce contexte que le président burundais affirme que le Rwanda envisage d'attaquer son pays. Dans une interview à la BBC, déclaration d'Evariste Ndayishimiye, dans une interview donc à la BBC, publiée ce mardi, il accuse également Kigali d'avoir tenté de mener un coup d'État en 2015 au Burundi. Déclaration regrettable, répond le chef de la diplomatie rwandaise sur le réseau social X. Risquer sa vie pour survivre, c'est le titre d'un rapport que publie ce mardi Médecins Sans Frontières sur la situation sécuritaire en Ituri, une province de l'Est de la République démocratique du Congo. Région en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017, auquel s'ajoute l'action des groupes armés. L'objectif de ce rapport, mettre un coup de projecteur sur cette situation et dénoncer la recrudescence des atrocités perpétrées dans la région. Camille Marquis est chargée de plaidoyer MSF en Ituri.
Dans nos activités de soins psychologiques et psychiatriques, nous constatons une augmentation en fait des taux d'anxiété et de stress post-traumatique auprès de nos patients qui sont confrontés à des années et des années de violences répétées, chroniques. Donc oui, 63% des diagnostics psychologiques posés par nos staffs MSF sont liés aux violences, et notamment aux violences sexuelles. En Ituri, nous voyons vraiment que cela est prévalent dans nos activités de santé mentale, que la violence est la première cause en fait des diagnostics psychologiques posés.
Et comment on agit là-dessus ?
MSF donc essaie de renforcer le plus possible, main dans la main avec le ministère de la Santé publique, la formation des personnels de santé à la prise prise en charge psychosociale des victimes de violences, notamment de violences sexuelles, afin que les capacités locales soient améliorées. Comme ça, au départ de MSF, les opportunités seront toujours là pour les populations.
Un propos recueilli par Paulina Zidi. Le bombardement d'un marché a fait hier une centaine de morts au Soudan, selon Emergency Lawyers. Ce collectif d'avocats documente les exactions du conflit qui oppose depuis près de 2 ans maintenant l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans un communiqué, Emergency Lawyers accuse l'aviation soudanaise d'avoir bombardé le marché de Tora dans la grande banlieue d'El Fasher au Darfour du Nord. Correspondance régionale, Gaëlle Alex.
Un massacre horrible. C'est en ces termes qu'Emergency Lawyers décrit les événements d'hier à Tora. Selon le collectif, les avions de l'armée soudanaise ont bombardé sans discrimination le marché. Sur X, l'organisation de la société civile Darfour Victims Support a publié une courte vidéo ce matin des décombres de Tora. Des corps carbonisés jonchent le sol au milieu des cendres. Le marché de Tora est considéré comme le plus grand point d'approvisionnement des civils qui viennent y acheter leurs biens de première nécessité, explique l'organisation. Elle dénombre pour l'heure plusieurs dizaines de victimes et promet de mener une enquête. Depuis le début du siège d'El Fasher, il y a plusieurs mois, les populations civiles environnantes sont régulièrement victimes de bombardements de la part des deux belligérants. Selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale, entre les 12 et 15 mars, le camp de déplacés d'Abu Shouk, au nord-ouest d'El Fasher, a essuyé des tirs de mortier de la part des forces de soutien rapide. En décembre, l'armée soudanaise avait bombardé un autre marché, celui de Cap Kabiya, à l'ouest d'El Fasher, tuant déjà une centaine de personnes. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Du sport et en football, on dispute la 6e journée des éliminatoires de la zone Afrique avec 15 matchs au programme aujourd'hui. Quelques résultats déjà avec vous, Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir.
Et une mauvaise opération pour le Bénin.
Oui, les partenaires de Steve Mounier se sont inclinés 2-0 face à l'Afrique du Sud à Abidjan. C'est là où avait lieu la rencontre. Conséquence, les Bafana Bafana sont en tête du groupe C avec un matelas de 5 points sur le Rwanda et sur les Béninois. Mauvaise opération aussi pour le Nigeria. Tenu en échec par le Zimbabwe 1-1 malgré un but de Victor Osimhen, le Nigeria est quatrième de ce groupe. À noter également le match nul 1-1 entre le Rwanda et le Lesotho. Et puis dans le groupe G, déception de plus pour la Guinée battue en Ouganda 1-0. Le Sili National est quatrième à 5 points du leader, l'Algérie. En revanche, tout va bien pour le Cap-Vert, vainqueur en Angola 2-1. Les Requins Bleus sont en tête du groupe D avec 13 points et mettent le Cameroun sous pression avant son match contre la Libye.
Un match prévu dans la soirée. 10 rencontres encore au total sont à jouer.
Et ça démarre à 19h temps universel. Botswana, Somalie, Burundi, Seychelles, Cameroun, Libye. Donc, on vient d'en parler. Et puis, ainsi qu'Égypte, Sierra Leone et Soudan du Sud à la même heure. Et puis, à 21h TU, Algérie, Mozambique, Comores, Tchad, Mauritanie, République démocratique du Congo et Sénégal-Togo. Enfin, en raison du Ramadan, le Maroc débutera sa rencontre tardivement dans la soirée contre la Tanzanie à partir de 21h30 temps universel. Match qui va donc durer jusqu'au bout de la nuit.
Et on rappelle, Cédric, que les premiers de chaque groupe sont qualifiés. Au total, 9 équipes iront au Mondial. Le meilleur deuxième du groupe sera qualifié pour un barrage face à une équipe sud-américaine pour avoir une chance de disputer cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, se veut droit dans ses bottes. Un général qui a fait un coup d'État n'a peur de personne, dit-il en substance dans une interview ce mardi soir à RFI et France 24. Pour la présidentielle du 12 avril prochain, le général Oligui Nguema est candidat, mais beaucoup de poids lourds de la politique gabonaise sont exclus de ce scrutin. Ont-ils été écartés sciemment par l'officier qui a pris le pouvoir le 30 août 2023? S'il est élu, le général qui a renversé Ali Bongo ne risque-t-il pas de perpétuer un système et de faire du Bongo sans Bongo? À Libreville, le président de la transition gabonaise répond sans détour aux questions de Christophe Boisbouvier de RFI et de Marc Perelman de France 24.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au palais présidentiel. Et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous accueillir.
Bonjour, Marc.
Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI.
Monsieur le président, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision?
Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation, lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général, vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres.
Alors votre premier bilan, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux. Les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan?
Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12% parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée, c'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Afleximbank. Bank. J'ai vos élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé, mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer.
Alors, depuis le 30 août 2023, hein, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte, ça devait être 2 ans, ça va même être moins, hein, les élections vont avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel?
Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété.
Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion?
Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Je n'ai pas un chemin de rupture avec tout le monde, non.
Et avec la France?
Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu, les relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée, c'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques, j'ai été invité au sommet de la francophonie, j'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. nous avons de très bonnes relations et la France est notre partenaire historique.
Mais il ne vous a pas échappé, en dehors des trois États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme?
C'est vous qui le pensez.
Je vous pose la question.
Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle.
Vous avez une idée?
Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pool de formation sous-régionale. À l'intérieur, il y aura deux écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul.
Depuis quelques années, les Chinois cherchent un site dans le golfe de Guinée pour y installer une base navale. Et pour cela, ils ont sollicité aussi votre pays, le Gabon. Est-ce que vous y seriez favorable au Gabon?
C'est une discussion que j'ai échangée lorsque je me suis rendu en Chine avec le président Xi. Le Gabon, pour l'instant, n'a pas besoin de base. Nous avons besoin de faire des routes, des hôpitaux, des écoles pour la jeunesse. Si cet argent peut nous servir à faire des routes, à construire des hôpitaux, ce serait la bienvenue. Mais la discussion reste toujours ouverte.
Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction?
Au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Et il y a le temps de la justice.
Monsieur le Président, le problème, c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer?
Je ne songe à rien faire. Il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent.
On y est presque, donc.
Vous le dites.
Alors, dans une interview à Jeune Afrique, Ali Bongo, qui est actuellement assigné à résidence à Libreville, a déclaré il y a quelques semaines « Tout ce dont on accuse mon épouse, les détournements, les nominations à ma place, tout cela, c'est faux. »
Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier chez le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail.
Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Mme Bongo signait des documents officiels à la place de son mari?
J'ai dit, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre?
Et vous avez des preuves de...
Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Pardon ? Après son AVC. Posez la question à Libongo Ndimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC, je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signe aucun document.
Mais cela ne prouve pas que son épouse signe à sa place, Monsieur le Président.
Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférées à son domicile. Donc vous comprenez qui signait à son domicile.
Son épouse.
C'est vous qui le dites.
C'est vous qui le suggérez.
Non, non. C'est la justice qui le sait. Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet.
Alors, beaucoup de caciques de l'ancien régime, hein, on vient de parler des deux personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo?
Je ne suis pas PDGiste. On ne peut pas me dire que dans un gouvernement de 35 ministres, il n'y a que 5 PDGistes. Et on dit que c'est les plus nombreux au gouvernement. Et je vous le dis, il faut les compter au gouvernement. Laissez les gens parler, comme au Gabon le dit, c'est du Congo ça. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs, tout comme le président Macron l'avait fait, La République en Marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan.
Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondosa, qui est le vrai vainqueur de d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou, et le syndicaliste Jean-Rémi Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre, ou au moins vous forcer à un deuxième tour.
Au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. C'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Ondosa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémi Yama, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ça me touche. C'est dommage qu'avec une telle carrière politique, il aurait pu préparer son dossier depuis fort longtemps. Il faut qu'on arrête de manipuler la population. Ce pays doit changer. Et il va changer.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici, à Libreville. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale.
Entretien réalisé avec les moyens techniques de Jadel Khoury, RFI 18h, 19h58, ici à Paris et à Libreville.
Ce mardi, sur RFI.
Comment se réconcilier avec les nombres?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Tout est nombre, disait Pythagore. Loin d'être nos ennemis, les chiffres sont nos alliés partout à l'œuvre, dans la nature comme dans nos sociétés humaines. Et si on se laissait embarquer par la magie des nombres et même déstabiliser par les mathématiques de l'amour?
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI. Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.